recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Nous voici une fois de plus sur ce plateau du Larzac. Vous avez répondu à l'appel des paysans travailleurs qui ont voulu, par ce moyen, donner une plus grande dimension au soutien qui nous est apporté et nous prouver que nous n'étions pas seuls.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Voilà bien une concordance que l'actualité impose à l'attention. Les turbulences de la résistance à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes jusqu'à son tout récent succès, avec l'annonce par le gouvernement d'Édouard Philippe d'un renoncement à la réalisation de ce grand projet, ces turbulences et leur issue renvoient tout droit au précédent du Larzac dans les années 1970. Je ne prétendrai pas, certes, à l'originalité en évoquant ce rapprochement. Non seulement les observateurs doués de quelques mémoires y ont été conduits spontanément, mais les acteurs sur le terrain s'y sont souvent référés. Au Larzac se développa en effet un mouvement de résistance civile, une formule qui remonte à l'Américain Henry Thoreau, au mi-temps du 19e siècle, un mouvement qui a déjà marqué profondément les consciences en obligeant l'État à renoncer à l'installation de vastes espaces militaires dans les causses du sud de l'Aveyron. Pierre-Marie Terral, mon invité ce matin, docteur de l'Université Paul-Valéry Montpellier III, y a consacré des travaux marqués par une pertinence et une sympathie suffisamment distanciées pour qu'ils répondent à tous les critères d'une historiographie rigoureuse. Les enjeux agricoles, écologiques, psychologiques, civiques et en définitive profondément politiques ont beaucoup de similitudes d'une époque à l'autre. Ce qui n'exclut pas, bien sûr, dès qu'on y regarde de plus près, de très notables différences, selon une dialectique à laquelle nous sommes ici, de samedi en samedi, fort continuement habitués.
Moi, j'étais paysan indigène, puisque j'étais né ici, mes parents, mes grands-parents, etc. Donc, j'étais vraiment un paysan normal, quoi. Je votais à droite, j'allais à la messe, j'étais sous-officier en étant appelé, j'étais bien sage, et puis un jour, je me suis retrouvé dans un périmètre, puisque l'armée voulait prendre mes terres pour gagner un camp militaire. Et l'affaire Larzac a démarré comme ça alors que j'avais 26 ans. Et que je ne connaissais rien en politique. J'avais vu mai 68 à la télé, j'en avais eu un peu peur à l'époque, j'étais un peu effarouché par ça. Et j'ai fait mon mai 68 après. On avait souvent entendu parler de l'extension du camp du Larzac. Le bruit courait de temps en temps, ils voient grandir le camp, puis on n'en parlait plus, puis ça revenait, puis on n'en reparlait plus. Et puis donc un jour on a appris ça à la télé. On a été très étonnés, ça y est, ce que s'ils veulent le faire, hein. Et puis c'était le ministre qui l'avait dit.
On ne faisait pas des actions pour faire des actions. On faisait des actions parce qu'eux aussi nous harcelaient sans arrêt.
Ça ne s'appelle pas de la violence, enfin, nous on sait faire la différence aujourd'hui. Il y en a encore qui ne la font pas, on a vu l'exemple avec le démontage du McDo, encore on nous parle de saccage.
On répondait à une agression. Alors, quand on est agressé, eh bien, à ce moment-là, eh bien, oui, quand on peut peindre et qu'on peut mettre nos slogans, alors ça, on n'hésitait absolument pas. Et c'était un genre de défouloir. Hein.
Eux, ils jouaient à la guerre sérieusement. Et nous, on jouait avec eux, avec les femmes, les enfants, tout ça, ils tirent à blanc, évidemment.
Et de notre petitesse à nous, arriver à leur faire la nique, c'était assez jouissif, quand même. Quoi. Et d'arriver vraiment à leur prouver qu'avec peu de choses, une population déterminée pouvait les empêcher de faire ce qu'ils voulaient. Bien entendu, dans un état de dictature, on n'aurait peut-être pas pu le faire. Hein. Il faut toujours ramener ça. On est dans un pays démocratique où c'est des choses comme ça qui font voir qu'il y a une détermination dans une lutte.
Pierre-Marie Terral, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai proposé, pour ouvrir notre conversation, quelques citations, quelques propos extraits d'un film qui a compté dans la mémoire du Larzac, le documentaire de Christian Rouault qui remonte à 2011, Tous au Larzac. Nous avons entendu successivement Léon Maillet, Pierre et Christiane Burguère, Michel Courtin et Christian Roquerol. Vous les connaissez tous ces personnages ?
Tous ces personnages, en effet, qui sont à la fois des agriculteurs, je dirais, natifs de ce plateau du Larzac, ou alors des personnalités qui se sont installées pour participer à cette lutte et pour y faire leurs armes, j'allais dire, en s'installant comme agriculteurs, alors qu'ils n'étaient pas forcément prédestinés à cette activité.
Ils parlent là avec le recul et peuvent peut-être commencer de répondre à une question essentielle, c'est-à-dire celle de savoir, comme le disait une Camille de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, toutes les jeunes femmes signent Camille pour montrer que personne n'émerge avec une tête au-dessus des autres. Comme elle le disait, la ZAD est devenue un symbole, nous voudrions en faire un espoir. C'est une citation que j'emprunte à Catherine Vincent dans un article de janvier dernier qui posait précisément la question du parallèle légitime entre Larzac et Notre-Dame-des-Landes. Ce propos, la ZAD est devenue un symbole, nous voudrions en faire un espoir. Est-ce que rétrospectivement, vous pensez qu'il pourrait s'appliquer au Larzac ?
Ce propos peut effectivement s'appliquer rétrospectivement parce qu'au départ, c'est le désespoir qui prédomine sur le Larzac en 1971. Les agriculteurs étant acculés par cette décision, rien ne les prédestine en effet à lutter, à résister. Ils ont toujours été obéissants, pieux, conservateurs. Et cette décision qui tombe comme un couperet, effectivement, sème le désespoir et des tentations de violence. À ce moment-là, les agriculteurs vont plutôt penser à aller chercher leur fusil de chasse que penser à l'espoir futur d'une victoire qui semble bien hypothétique contre l'État.
Rappelez-nous le décor géographique, ce que sont ces causes, la cause des causes, comme on l'a dit avec un jeu de mots un peu facile.
La cause des causes, effectivement. Le cause, si on en suit les descriptions, notamment de Michel Debré, et les descriptions venues de Paris, c'est une terre désolée, peuplée de vieillards, à demi courbés par le poids des ans et par la dureté de cette terre. Effectivement, le Larzac s'est dépeuplé, comme l'Aveyron dans son ensemble, et comme de plus larges parties de ce territoire du sud, du Massif central.
Un plateau calcaire qui va à peu près de Lodève jusqu'à Millau.
Exactement. Un plateau calcaire dont les terres pauvres pour la plupart ne se prêtent qu'à l'élevage ovin et donc le fameux roquefort qui en est issu. Ce n'est pas une terre riche, c'est une terre difficile qui forge aussi peut-être le caractère des gens si on veut faire du déterminisme.
Là vous faites du André Siegfried, celui qui expliquait que les comportements électoraux s'expliquaient par la nature géologique du sol.
Exactement. L'attitude des agriculteurs à ce moment-là, c'est avant tout, en effet, d'obéir. Et ils ont été, d'ailleurs, très hostiles, on y reviendra peut-être à mai 68. Et quand cette nouvelle tombe sur eux, ils pensent avant tout, effectivement, aux difficultés et que cela va poser, notamment pour la perpétuation de leur activité agricole.
Mais il y avait déjà une présence militaire sur la cause du Larzac.
Le camp militaire du Larzac, effectivement, est installé en 1902-1903 sur le plateau, avec pour siège la cavalerie, bourg du centre du plateau. Et petit à petit, ce camp militaire a effectivement pris de l'importance et il y a une sorte de serpent de mer qui revient épisodiquement toutes les décennies avec une extension future de ce camp.
À peu près 2000 hectares pour le camp militaire sur un ensemble de 14 000 hectares, le Larzac.
Alors, effectivement, on a 3000 hectares de camp militaire et l'extension prévue serait de 14 000 hectares pour porter le camp militaire à 17 000 hectares. Donc, on aurait un camp dont la surface serait sextuplée et les agriculteurs ne peuvent s'en satisfaire car 103 agriculteurs, 107 plus exactement, seraient concernés par cette décision, 107 agriculteurs et leurs familles.
Et ce sont 103 d'entre eux, c'est la fameuse pétition des agriculteurs, vont protester lorsqu'ils apprennent, par la télévision d'ailleurs, donc très brutalement, qu'ils vont être expropriés.
La venue d'André Fanton sur le Larzac avait commencé à donner des indices en 1970.
André Fanton qui était secrétaire d'État à la Défense nationale.
André Fanton vient à la cavalerie lors d'un congrès de l'UDR, un congrès politique, et annonce dans cette salle des fêtes de la cavalerie que le camp va être étendu. On en est encore au stade de la rumeur. Et c'est effectivement l'annonce télévisée de Michel Debré qui va surprendre beaucoup les agriculteurs réunis en famille à l'heure du repas. Et la consternation s'abat sur ce plateau. Il faut rappeler que ces populations agricoles sont très isolées et la messe du dimanche est le seul lieu de sociabilité ou presque. On n'a pas de rapport avec son voisinage, si ce n'est des rapports parfois éloignés, des rapports distants. On se vouvoie et ce n'est que cette décision qui va forcer ces gens à se rapprocher alors que rien ne les poussait à le faire, d'autant que des installés étaient arrivés, notamment Guy Tarlier, venu d'Afrique, un ancien militaire démobilisé, des personnes qui, dans les années 1960, vont revitaliser le Larzac, ce qui n'est pas forcément perçu depuis Paris. Cette révolution silencieuse, pour citer Michel de Bâtisse, n'est pas très perceptible, et pourtant elle est à l'œuvre sur le plateau dans les années 1960. Donc ce sont deux dynamiques qui vont entrer en collision avec la volonté d'étendre le camp militaire.
Alors cette volonté est exprimée en effet par le gouvernement qui s'étonne de n'ayant pas pris conscience de l'énergie que vous dites d'une résistance. On y a relativement bonne conscience. On va indemniser les agriculteurs qui vivent aux yeux du gouvernement assez chichement. On va les indemniser et on pourra par conséquent développer les emprises militaires. Écoutons donc Michel Debré, l'ancien Premier ministre, qui est à l'époque ministre de la Défense nationale. Dans le gouvernement de Jacques Chirac, Michel Debré qui répond aux critiques sur France Inter.
Tout cela n'est pas sérieux. Et ni l'agriculture, ni l'activité économique, ni l'environnement ne sont menacés. Pour ce qui concerne l'agriculture, peut-être les exploitations touchées sont-elles au nombre de 30 et les exploitations qui se situent sur le périmètre de l'extension sont de l'ordre de la quinzaine. Tous les efforts nécessaires ont été examinés et soit qu'il s'agisse de propriétaires anciens qui désirent déjà depuis longtemps se retirer, soit qu'il s'agisse de propriétaires ou de fermiers jeunes qui ont besoin d'être recasés, le nécessaire sera fait dans d'excellentes conditions. Quant à l'activité économique, quant à l'environnement, je crois que dans quelques années, on s'apercevra que l'extension du camp du Larzac a apporté un bénéfice bien plus considérable que les prétendus troubles dont on l'accuse. En réalité, derrière toutes ces critiques, il y en a une, et on voit bien, qui anime un certain nombre de milieux. Il s'agit d'attaquer la défense nationale. Au cours des années passées, on a attaqué nos fabrications atomiques, on a attaqué le principe du service militaire, que sais-je, tout est occasion. Et en fin de compte, gratter un petit peu derrière les critiques que vous entendez, à part naturellement les organisations professionnelles agricoles ou les organisations économiques qui sont autour de la table pour se concerter, mais si vous laissez ces critiques-là, qui sont des critiques justifiées et avec lesquelles et que nous prenons en considération, derrière toutes les autres, vous trouverez en fait, comment dirais-je, cette longue et perpétuelle tradition qui voudrait faire croire aux Français que l'on peut être libre sans s'armer.
C'est un peu ce que Michel Debré avait appelé à une autre époque l'anti-France dont il s'agit. Il ne prend pas tout à fait en compte, me semble-t-il, à l'époque, ce propos est du 8 février 1972, au début de cette grande affaire, il ne prend pas forcément bien en compte la réaction des paysans eux-mêmes. Et il met l'accent sur l'arrivée d'un certain nombre d'autres personnages. Et c'est cette rencontre d'ailleurs qui mérite d'être analysée.
Michel Debré enfonce un coin dans cette résistance qui est en train de se créer avec un bouclier départemental des associations agricoles qui se forment autour des agriculteurs. Mais l'arrivée notamment de maoïstes qui font leur longue marche sur le Larzac en 1972, effectivement, est une gêne pour les agriculteurs car ils arrivent avec leur slogan tel « le pouvoir est au bout du fusil » qui choque beaucoup localement et qui permet aux partisans du camp du Larzac de jeter, j'allais dire, le bébé avec l'eau du bain et de mêler ces agriculteurs à ces militants politiques issus de mai 68, mai 68 ayant eu très mauvaise presse dans les milieux agricoles du Larzac et parmi les paysans concernés un peu plus tard par l'extension également.
Plusieurs d'entre eux, dans les témoignages qu'on a recueillis ensuite, disent au moment de mai 68 que nous avons vu à la télévision, notre réaction a été de surprise, de rejet et d'indignation. Au fond, nous étions de droite. Et il n'était pas inscrit dans les astres que la rencontre avec les militants de mai 68 se passe de bonne façon. Et c'est cela, cette rencontre qui vient, au fond, colorer la spécificité de la lutte du Larzac.
Cette rencontre est tout à fait improbable. Ce qui s'est passé avec cette annonce, c'est qu'il y a eu mai 68, donc 2 ans, 3 ans avant, mais il y a eu aussi Une résurgence des revendications régionalistes et le Larzac, ne l'oublions pas, c'est au cœur de l'Occitanie. Et parmi les premiers militants, il y a des militants occitans qui sont très ancrés à gauche, qui sont les fers de lance des premières protestations, avec des militants non-violents, puisqu'il y a aussi la présence de la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto, installée à la Borinoble, dans la partie héraultaise du Larzac, qui, à la fin de la décennie 1950, début de la décennie 1960, ont protesté contre l'internement de suspects algériens du FLN sur le plateau, dans le camp militaire du Larzac, et ils étaient fort peu nombreux, il faut bien le dire, et les agriculteurs ne se sont pas intéressés du tout à ce mouvement-là. Donc rien ne les mettait du côté de la protestation.
Alors comment se passe cette rencontre? Comment se concrétise-t-elle en dépit de la distance des points de départ?
Eh bien, nécessité fait loi, nous sommes obligés de le dire. Il y a une alliance de circonstances qui se fait avec ces renforts. Numériquement, les agriculteurs sont trop peu nombreux, à une centaine de paysans et un noyau dur à l'intérieur de ceux-ci.
Le serment des 103, ils sont 103 à faire le serment public qu'ils ne quitteront pas leur terre.
Le serment des 103, c'est tout à fait décisif. Pâques 1972, Pâques, c'est important à cette référence religieuse, puisque Lanza del Vasto, qui est rassurant pour les agriculteurs, un peu étrange avec sa longue barbe de prophète, mais rassurant car catholique, organise un jeûne, il fait don, comme il dit, de 15 jours de sa vie, et notamment lors d'une journée où il est entouré de l'évêque de Rodez et de l'évêque de Montpellier, ce qui est une caution inespérée pour les agriculteurs. Cette caution de l'Église, ils vont toujours la rechercher, de même que la caution du syndicat agricole. Ce sont les deux jambes de ce mouvement.
Peu auparavant, le pape Paul VI a défendu l'idée de l'objection de conscience.
On a une génération qui, si on se place sur le terrain, a été aussi fortement marqué par la guerre d'Algérie. Tous ces prêtres sont très travaillés par la question de l'armement, parce qu'ils ont vécu, et ça les place plus naturellement aux côtés de ces agriculteurs qu'ils connaissent, parce qu'il y avait des mouvements catholiques à milieu rural. Et ça, c'est un préalable aussi qu'il faut avoir en mémoire, car c'est un lien préexistant, et ces agriculteurs, ils vont être guidés quelque part par certains prêtres qui vont parfois tenir le stylo lorsqu'il les faudra pour écrire les discours, qui vont passer de bergerie en bergerie pour créer du lien entre les agriculteurs, pour maintenir ce lien. Et pour revenir à Lanza del Vasto en 1972, ce jeûne de 15 jours, il est tout à fait décisif car il oriente les agriculteurs vers la non-violence. C'est pour eux un moyen de maîtriser notamment l'arrivée de ces maoïstes dans la région. Et c'est aussi l'occasion de signer ce serment qui fera date et qui empêchera, à une ou deux exceptions près, que le mouvement se détruise ou se désolidarise.
Nous verrons sûrement tout à l'heure que cette relation à la violence est différente dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, mais elle est essentielle. Et comme le dit un des témoins, nous étions prêts à sortir notre fusil et Lanza del Vasto nous a poussé à une autre attitude, tout en nous intimidant un peu. Un autre acteur, Raoul Gastal, dit: quand ils parlent, c'est du bon foin, mais leur atelier est trop haut parfois pour la brebis.
Les paroles de Lanza del Vasto sont très surprenantes et la dimension philosophique des propos surprend au départ les agriculteurs qui vont appréhender progressivement ce langage et qui vont surtout comprendre que ce que leur dit Lanza del Vasto, c'est qu'il est important d'être unis et qu'il est important aussi de parler quotidiennement aux médias. Et chaque jour, à partir de ce jeûne, les militants de la communauté de l'Arche vont rédiger un communiqué à l'attention de la presse. Donc cette ouverture du mouvement vers l'extérieur et la communication autour de ce mouvement, elle va être inculquée notamment par les non-violents de la communauté de l'Arche et par Lanza del Vasto.
Et on voit un certain nombre d'acteurs faire jouer leur réseau en dehors du Larzac et apporter par conséquent l'influence de voix qui comptent. Par exemple, Bernard Clavel, le romancier, par exemple Jean-Paul Sartre, qui aussitôt déclare qu'il est avec les paysans du Larzac, et d'autres encore. Et tout ça se marque dans une chanson. Cette chanson du Larzac est de 1974. Elle est due à un auteur sur lequel on peut s'arrêter un instant, qui est Dominique Loquet, qui est originaire de Loire-Atlantique et qui par conséquent fait en quelque sorte à l'avance un lien avec Notre-Dame-des-Landes.
Dominique Loquet fait le lien avec Notre-Dame-des-Landes. Il est installé en Loire-Atlantique et aujourd'hui encore, il compose des chansons sur cette nouvelle lutte pour lui qui est Notre-Dame-des-Landes. Et un certain nombre de militants, comme cela on le verra peut-être, se sont réinvestis soit par leur origine géographique, soit par leur conviction politique, et assurent ce lien entre ces deux mouvements qui sont aussi concomitants dès le départ, puisque 1972, c'est la création de la première association de défense des riverains, et plus particulièrement des agriculteurs, et ces agriculteurs de Notre-Dame-des-Landes, qui écrivent sur les murs, comme ils ont pu le dire parfois, Larzac, Notre-Dame, même combat, eh bien, on les retrouvera sur le plateau du Larzac dès 1973.
Ils emploient même parfois la formule Garnarem, l'eau Larzac, ils le transfèrent du côté de Nantes.
Exactement, mais il faut savoir que cette formule Garnarem, l'eau Larzac, lorsqu'elle franchit la Loire, elle est très délicate à manier. On pourra le voir lorsque les paysans marchent vers Paris. Si on analyse la presse, si on analyse les publications régionales, on a un certain nombre de transpositions de ce slogan, car il est difficile à appréhender, comme je disais, plus au nord de la Loire.
Eh bien, nous allons voir cela, mais auparavant, la chanson du Larzac, 1974.
Le Larzac restera, notre terre servira à la vie des moutons par de canon. Jamais nous ne partirons, de gré de force, nous garderons Larzac. Degré de force, nous garderons Larzac. Et bien des livrets militaires firent demi-tour au ministère. Le Larzac est terre de paix, non-violence est l'arme de guerre. Des Indiens et des Irlandais sont venus pour nous rencontrer. On ne parle pas la même langue, mais on parle le même combat. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas de canon, jamais nous ne partirons. De gré de force, nous garderons Larzac. De gré de force, nous garderons Larzac. La bergerie de la Blaquière, malgré le veto du préfet, est faite par des volontaires. Tous ceux qui ne veulent plus de guerre, refusons de payer l'impôt qui s'en ira à l'armement, et reversons les 3% pour financer ce bâtiment. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas de canon, jamais nous ne partirons. De gré de force, nous garderons Larzac. De gré de force, nous garderons Larzac.
Pierre-Marie Terral, on retrouve là un certain nombre de thèmes qui ont parcouru l'action des gens du Larzac.
Cette chanson est un bon condensé de l'ambiance déjà des rassemblements, notamment Larzac 74, mais aussi du message et du contenu politique, puisque cette lutte se politise avec des renforts, des militants de la désobéissance civile qui viennent apprendre leurs techniques, notamment celle du refus de l'impôt qui préexistait au Larzac, qui avait été aussi utilisé, on a cité tout à l'heure Thoreau aux États-Unis. Et ce réinvestissement de moyens de lutte qui existaient déjà, c'est une corde ajoutée à l'arc des paysans du Larzac, avec des constructions de terrain qui vont matérialiser cette désobéissance civile, dont la bergerie de la Blaquière.
Qui est construite sans autorisation, naturellement, c'est symbolique, sans permis de construire.
Cette bergerie, durant 2 ans, elle va être construite sans autorisation pour bloquer un accès, assez symboliquement, mais pour bloquer un accès et une extension du camp, par des militants qui vont trouver là une porte d'entrée sur le Larzac, puisqu'ils vont se rendre utiles à ce mouvement, ils vont participer à installer la résistance, à l'enraciner dans le terrain, et tout cela en créant une bergerie que les Larzaciens appelleront une bergerie monument ou une bergerie cathédrale, ou certains, comme José Bové qui a participé, une manifestation en dur. Il y a l'idée de rester et de s'ancrer au terrain, comme le feront certains militants. D'autres repartiront, mais c'est effectivement une construction emblématique de cette époque, avec des militants qui, pour beaucoup, n'avaient jamais taillé une pierre de leur vie, comme c'est bien normal.
Il y a même un cycliste qui arrive de loin avec une pierre sur sa bicyclette. c'est notre cathédrale, dit quelqu'un d'autre. Là où on retrouve encore la dimension religieuse, y compris cette hostilité chrétienne à l'armée. Il y a vraiment cette présence d'un antimilitarisme qu'on ne va pas retrouver du tout du côté de Notre-Dame-des-Landes, ou pratiquement pas, puisque les choses ont beaucoup évolué. À l'époque, il y a encore le service militaire, il faut le rappeler, et par conséquent, les soldats, l'armée, se trouvent elles-mêmes très, très légitimées et souhaitent développer des manœuvres au service de la défense nationale.
L'armée est très contestée. Nous sommes à peu près une décennie après la fin des guerres coloniales, après la fin de la guerre d'Algérie. Et en 1973, on peut rappeler aussi qu'il y a ce mouvement contre la loi Debré, contre cette loi liée au sursis militaire, amène de nombreux jeunes lycéens dans la rue. Et ces lycéens se seront réinvestis à l'été 1973 lors du rassemblement de Larzac.
C'est une loi qui rend plus difficile le sursis pour les étudiants par rapport au service militaire, oui.
Et ces jeunes gens vont se réinvestir dans les mouvements de Larzac, et ces bases militantes vont aussi participer à ces comités Larzac, puisque entre 100 et 200 villes de France vont avoir des comités Larzac où ces jeunes gens trouveront naturellement toute leur place, avec parfois une dimension antimilitariste, une dimension pacifiste, certains peut-être déjà une priorité écologiste, mais en 1973, on est très tôt encore dans le temps, et il faudra attendre une année supplémentaire pour que René Dumont soit le premier candidat de cette tendance politique en structuration à l'époque.
Et cela annonce évidemment déjà Notre-Dame-des-Landes, mais avant d'y venir, il faut comprendre pourquoi certains ont pu parler d'un Woodstock français dans les rencontres entre les militants venus d'ailleurs et les paysans. Le Woodstock s'explique par la lutte contre la guerre du Vietnam, et donc est profondément antimilitariste. De la même façon, on voit arriver un certain nombre de militants de l'après-68 qui vont dans le même sens. D'ailleurs, on voit un paysan du Larzac dire « On a vu arriver tous ces hippies qu'on appelait des bourruches parce qu'ils étaient tous chevelus. Ils nous faisaient même un peu peur. » Bourruche, ça veut dire quoi ?
Bourruche, on va traduire cela par chevelu, hein, pour ne pas dire poilu.
Ils ont transformé, ajoute-t-il, un simple combat de paysans en une bataille contre la militarisation.
Cet aspect de Woodstock, il se reconnaît en effet avec la lutte contre l'adversaire militaire, mais plus encore peut-être par ces foules bigarrées qui envahissent le plateau lors des rassemblements estivaux de 1973, de 1974 et encore de 1977, avec aussi une tendance à la réduction du Larzac en kermesse, comme ça a pu être fait pour mai 68. On a aussi une dépolitisation du mouvement par ses adversaires qui ne vont considérer que ces moments forts et emblématiques pour donner une image du mouvement, une image plutôt sympathique, mais aussi parfois une image qui va être à double tranchant, puisqu'on va caricaturer les paysans, ceux contre quoi ils vont s'élever, et ils vont souvent contester les comptes rendus médiatiques qui sont faits de leur rassemblement, avec selon eux une vision trop réductrice aux scènes nues et aux tenues plus ou moins exubérantes des manifestants qui sont venus les soutenir le temps d'un week-end.
Il y a tout de même de l'humour qui est très très présent, peut-être plus qu'à Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui, quand ils envoient un essaim d'abeilles chez les militaires, ou quand cette jeune femme se promène précisément avant les femmes, les seins nus, pour, dit-elle, obliger les militaires à baisser les yeux.
L'humour est une constante et c'est un des liens, un des ciments de tout le mouvement, avec des slogans comme « Faites la bourre, pas la guerre » lors des rassemblements de 1974, avec, vous le citiez tout à l'heure, l'introduction au tout début de ce mouvement d'un essaim d'abeilles lors d'un bal au cœur du carré des officiers dans le camp militaire de la cavalerie, qui crée un mouvement de panique et qui disperse l'assemblée réunie à ce moment-là. Ce genre de détail est assez intéressant parce qu'il rappelait, et là c'était Philippe Joutard qui citait ce type d'anecdote,
l'historien.
Lors des guerres des Camisards, on utilisait parfois ce type de méthode. Il y a un lointain imaginaire qui est rappelé ici avec cette essaim d'abeilles.
Mais on évoque souvent d'ailleurs à l'époque les Camisards, les Cathares. Également les vignerons de 1907 qui avaient défendu leur spécificité contre le gouvernement central, là encore.
On ajoute le mouvement du Larzac à une longue généalogie mythologique de révolte du Midi que l'on fait remonter au Qatar et à la croisade contre les Albigeois, qui passe par 1907 et les viticulteurs de Narbonne et du Midi, qui passe aussi plus proche du Larzac par les grévistes de mineurs de Decazeville en 1961, qui vont passer la fin de l'année 1961 au fond de la mine et qui vont être, pour la première fois dans le département et au-delà, soutenus par les militants occitans qui sont alors en pleine renaissance.
Sur cette atmosphère de, que vous appelez de kermesse, comme un certain nombre d'observateurs du moment, ce reportage d'Alain de Chalvron. Alain de Chalvron sur le plateau du Larzac, qui rencontre d'un grand rassemblement qui remonte au 14 août 1977.
Un plateau calcaire comme il y en a tant dans la région, une étendue plate et brûlée par le soleil, à quelques kilomètres de Millau, la sous-préfecture de l'Aveyron, c'est le causse du Larzac. Le causse où se déroule le nouveau rassemblement contre l'extension du camp militaire, auquel s'oppose depuis 7 ans maintenant la centaine d'agriculteurs qui y vivent. Sur place, Alain de Chalvron.
Après s'être transformé cette nuit en festival pop ou folk, le meeting écologique du Larzac tient plus ce matin de la kermesse que de la manifestation. Kermesse politique tout de même, où les stands seraient ceux du PSU, de la CFDT ou des comités de soldats. On parle de tout, du racisme, de la lutte des femmes, de l'emploi ou des prisons. Et finalement, on oublie un peu la raison essentielle du rassemblement, le soutien aux 103 paysans du Larzac en voie d'expropriation. On se promène en maillot de bain pour profiter du soleil, les enfants jouent, les chiens se font la cour, bref, c'est la fête. Hier soir, le meeting s'était transformé en bal populaire, les manifestants n'avaient pas oublié leurs instruments de musique, des instruments écologiques comme il se doit, vielle à roue, accordéon, violon ou mandoline. En fait, tout le monde attend maintenant l'ordre de rassemblement pour le cortège qui doit être donné d'un instant à l'autre. Les manifestants pénétreront sur le terrain militaire et se dirigeront vers une ferme utilisée comme cible depuis longtemps par les militaires. En principe, la manifestation doit éviter la caserne, une caserne où tout est parfaitement calme ce matin. Les organisateurs veulent éviter toute provocation. Depuis 7 ans, les paysans du Larzac ont placé leur lutte sous le signe de la non-violence.
L'ANSA del Vasto est venu nous voir et il nous a dit, mes petits-enfants, vous n'êtes pas les plus forts si vous partez à la bagarre. Et depuis, il n'a plus été question de violence dans la lutte que nous menons contre l'armée.
Cela dit, dans le petit village de la cavalerie et à Millau, tout le monde n'est pas d'accord avec ce rassemblement. Pour une commerçante de la cavalerie, il ne s'agit que d'une horde de va-nu-pieds. En fait, les villageois sont rigoureusement pour l'extension du camp, une extension qui ne manquera pas d'apporter des retombées économiques. Comme toujours, chacun défend son intérêt personnel, les commerçants le leur, les paysans aussi.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Il est important de rappeler, Pierre-Marie Terral, que une partie de la population, notamment dans les villes voisines, sont hostiles effectivement à ce mouvement. Mais il faut aussi évoquer l'aspect juridique de la lutte des protestataires. Je pense à cette idée qu'ils ont eue en créant un groupement foncier agricole en décembre 73, de faire une offensive en face du grignotage des terres par les achats de l'armée, en divisant les propriétés et en les vendant tout petits morceaux à des gens extérieurs qui, du même coup, se trouvent impliqués.
On va à ce moment-là parcelliser les terres du Larzac pour rendre plus complexe la tâche de l'expropriation et pour offrir une alternative aux agriculteurs, aux propriétaires qui seraient désireux de vendre, mais qui seraient réticents de vendre directement à l'armée. Le deuxième effet, outre la maîtrise foncière, c'est de créer tout un réseau de militants qui se retrouvent propriétaires avec des noms fameux. On a parlé de René Dumont.
Le candidat écologiste de 1974.
On pourrait citer Théodore Monod ou d'autres grands noms du pacifisme de l'époque. Ces militants se trouvent désormais impliqués eux-mêmes. Et dans un deuxième temps, on va aller encore plus loin puisque on va impliquer des propriétaires qui ne sont pas résidents français, des propriétaires à l'international en divisant les parcelles en toutes petites unités de manière à ce que la démarche d'expropriation soit des plus compliquées. On va créer un véritable imbroglio sur le Larzac à ce moment-là.
Il y a un autre aspect sur lequel il faut mettre l'accent, c'est une certaine solidarité avec des mouvements ouvriers qui sont très loin des paysans du Larzac. Je pense que, en particulier au mouvement à Besançon des LIP.
Les LIP de Charles Piaget, dont 1973 est la grande année, se rendent sur le Larzac lors du rassemblement de l'été 1973 autour de la figure de Bernard Lambert, syndicaliste agricole de l'Ouest, précisément de Loire-Atlantique, qui amène dans ses bagages des mouvements liés à mai 68. On y retrouve les LIP. Pour Bernard Lambert, c'est à ce moment-là le mariage des ouvriers et des paysans qui est célébré sur le Larzac. Parmi ces ouvriers, il y a une forte délégation des LIP qui vend son trésor de guerre, c'est-à-dire ses montres, lors de ce rassemblement. Et parmi les paysans, on retrouve des paysans de Loire-Atlantique et dans cette foule de paysans, il y a aussi des agriculteurs venus de Notre-Dame-des-Landes qui ont créé un comité Larzac et qui sont mobilisés depuis 1972 au sein d'une association locale de protestation contre ce projet d'aéroport nantais.
Déjà, Notre-Dame-des-Landes, puisque nous consacrons cette émission à un rapprochement entre l'histoire du Larzac et celle plus récente du refus du nouvel aéroport de Nantes. Nous n'avons pas insisté sur l'état d'esprit des militaires parce que ils sont moins concernés, évidemment, dans le cas de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, où il n'y a plus de service militaire, où on a probablement moins besoin de grands espaces pour faire des manœuvres, est-ce qu'il en reste de l'amertume, du chagrin, l'impression d'avoir été un peu abandonné par la nation, parmi nos armées?
Pour les militaires qui étaient installés au camp de la cavalerie depuis de longues années, ça a été vécu comme une véritable humiliation. Et dans les témoignages que je pouvais recueillir, ceci comparait la défaite de 1981 à celle qu'ils avaient subie en 1962 en Algérie.
À ce point-là.
Ça remontait à ce niveau-là, c'était une véritable frustration, d'autant que les liens de voisinage avec les agriculteurs qui, eux, se trouvaient victorieux, étaient des plus difficiles à vivre, et que parfois, jusqu'au cours d'école, eh bien, on se chamaillait, voire on se bagarrait entre enfants, suivant les positions de leurs parents. Il faut bien imaginer que des familles ont été divisées par ce sujet. Il a fallu du temps pour que les positions se rapprochent, pour que de nouveaux usages de ces territoires libérés par la non-extension du camp, comme la création du parc naturel régional des Grands Causses, un périmètre plus largement classé par l'UNESCO depuis, la création de zones artisanales ou industrielles, tous ces usages-là ont remplacé cet ancien projet.
Évidemment, le fait que chacun des deux camps avait l'impression de porter des valeurs qui les dépassaient ne pouvait qu'accentuer la force de cet affrontement. Même si aujourd'hui les blessures sont largement cicatrisées, la mémoire en demeure vivante.
Stéphane Essel, qui était un ami du Larzac, revenait sur cette dimension, sur cette lutte, comme disaient les agriculteurs, du blé qui fait vivre et des armes qui font mourir, en insistant sur cette dimension universelle d'un lieu aussi singulier que le Larzac. Et cette dimension universelle, elle se retrouve dans cette capacité à inspirer d'autres mobilisations, avec aussi également toutes ses limites, avec une légende noire et une légende dorée. Et il serait intéressant de voir si, dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, ces deux mémoires affrontées sont déjà en construction.
Un mot sur les relations entre le monde politique et cette aventure inattendue aux yeux du personnel politique du Larzac. On voit une partie de la gauche s'efforcer de s'en saisir et une autre aussi plus maladroitement. Rocard, rétrospectivement, Michel Rocard a dit que la deuxième gauche était vraiment incarnée dans le Larzac, avec déjà le goût de la défense de la nature, avec l'autogestion, etc. Mais Mitterrand lui-même, qui est un chef de l'opposition, vient un beau jour au Larzac et les choses se passent de façon curieuse, surprenante, non?
J'ai pu découvrir récemment, en lisant les fameuses lettres à Anne, que François Mitterrand était présent sur le Larzac au moment de Larzac 1973. Il visite le village de la Couvertoirade. C'est peut-être ce qui lui donne l'envie de revenir après sa défaite aux élections de 1974. Et lors de ce rassemblement, il n'annonce pas sa venue aux agriculteurs. Seuls deux militants socialistes avéronnais sont au courant. L'Aveyron étant une terre de mission pour les socialistes à cette époque-là. Ces deux militants l'encadrent et très vite, quelques projectiles et quelques insultes vont fuser. On lui reproche notamment le temps de la guerre d'Algérie, lorsqu'il était garde des Sceaux. Mais beaucoup, parmi les paysans, vont ensuite évoquer un coup monté, la présence de François Mitterrand ayant été ébruité. Alors je ne m'avancerai pas sur ce terrain-là n'ayant pas les archives nécessaires, c'est la théorie que défendent les agriculteurs. Quoi qu'il en soit, la visite de François Mitterrand tourne au fiasco. Il doit être évacué par les agriculteurs. Il craint lui-même qu'une nouvelle affaire de l'observatoire se déroule. Il craint le ridicule de la situation, mais il ne baisse pas la tête, il reste. Je suis venu pour 2 heures, je resterai 2 heures. Ce qui est intéressant, c'est que bien que évacué, exfiltré de ce rassemblement, François Mitterrand ne va pas tourner le dos aux agriculteurs, mais au contraire, il va se prendre de passion pour ses agriculteurs, pour Guy Tarlier, qu'il va appeler le géant du Larzac, dont il va toujours demander des nouvelles. Il n'y a qu'à lire des lignes de la paille et le grain, par exemple, pour voir les descriptions littéraires qu'il peut faire de ces paysages.
C'est un recueil de ses articles dans l'hebdomadaire du Parti Socialiste.
Publié en 1974, et au-delà de la dimension politique, qui se comprend évidemment, puisqu'il donne des gages à la gauche en 1981, en annulant l'extension militaire du camp du Larzac et en annulant la centrale nucléaire de Plogoff, mais il y a un attachement, semble-t-il, personnel de François Mitterrand, avec des phrases telles « Le Larzac, cette terre si près du ciel » qu'il emploiera à plusieurs reprises, et il reviendra lui-même sur les lieux, en visite privée, rendre visite aux agriculteurs au milieu des années 1980.
Après qu'il a décidé, arrivé au pouvoir en 81, en effet, de mettre fin au projet d'extension militaire sur le Larzac. Et c'est là que se termine le grand épisode que nous évoquons ce matin. Avem gardat lo Larzac, je ne prétends pas avoir le même accent que vous, Pierre-Marie Terral, nous avons gardé le Larzac. Et c'est alors que commence la période intéressante, intermédiaire entre Larzac et Notre-Dame-des-Landes, où on voit se développer, avec des hauts et des bas d'ailleurs, la légende, en tout cas la mémoire du Larzac. Il y a une extension quasiment internationale, ou en tout cas très lointaine, puisque Jean-Marie Djibaou, le leader kanak, a expliqué que le Larzac avait compté pour lui. Il est venu d'ailleurs au Larzac.
Jean-Marie Djibaou, lorsqu'il vient en métropole, en France comme il dit, va toujours demander à ses amis du Larzac s'il peut venir en brousse. En brousse, pour lui, c'est la campagne, c'est sur le Larzac, où il trouve des affinités avec ces agriculteurs qui se sont battus pour la terre. La maîtrise du foncier, c'est quelque chose qui lui parle. Et c'est aussi la volonté de développement agricole qu'il vient chercher auprès de ses amis du Larzac, qui vont lui offrir une parcelle de terre où il plantera un arbre de la liberté. Une anecdote à ce propos, lorsqu'il tombe en arrêt devant la bergerie de la Blaquière, sur la formule « Nous avons gagné parce que nous étions les plus faibles ». Une formule que, dit-on, il rapporte à François Mitterrand, qui lui rétorque « Les paysans du Larzac ont gagné aussi parce que j'ai été élu président de la République ». Et on ne peut pas nier que les paysans, comme le disait l'historien Jean Chesneau, qui était partisan de ce mouvement,
historien de l'Extrême-Orient.
Les paysans ont été sauvés par le gong, comme le disait Jean Chesneau, mais encore fallait-il pouvoir attendre jusqu'au gong.
Sur l'aspect international, il faut citer aussi le Japon, puisqu'il y a eu un grand combat un peu plus tard des Japonais de gauche, la gauche japonaise, contre la construction. Finalement, ils ont d'ailleurs échoué, mais la construction de l'aéroport de Narita, grand aéroport à distance de Tokyo.
C'est l'occasion pour les habitants du Larzac de se rendre aussi à Hiroshima et de diffuser leur dimension d'incarnation d'un lieu de paix. Ils vont beaucoup jouer sur cette carte-là et ils vont appeler à cette époque-là « retour de solidarité », leur ouverture vers l'extérieur et notamment vers l'international. Et on est là aux racines de l'insertion de ce plateau néanmoins isolé de l'Aveyron dans une dynamique anti-mondialiste pour les uns, alter-mondialiste pour les autres, qui se veulent porteurs d'alternatives au début de la décennie 2000.
On est passé en effet de l'antimilitarisme à l'alter-mondialisme. C'est une évolution importante qui marque d'ailleurs une différence avec Notre-Dame-des-Landes. Écoutez cet extrait du journal de France Inter sur le rassemblement alter-mondialiste au Larzac le 8 août 2003, qui fait bien la liaison entre les deux moments. Et on y entend José Bové, qui a été, vous l'avez dit en passant, un acteur majeur de la grande aventure du Larzac.
Le retour au Larzac, le retour du Larzac sur le fameux plateau, lieu culte des 68 arts, débats, forums et fêtes en tout genre. À partir d'aujourd'hui, on attend ce week-end entre 50 et 100 000 personnes. Deux raisons à cela. D'abord, après la libération de José Bové et avant le sommet de l'Organisation mondiale du commerce au Mexique en septembre, les alter-mondialistes se font entendre et puis ils célèbrent un anniversaire. Il y a 30 ans, c'était le premier grand rassemblement sur le plateau du Larzac contre l'extension d'un camp militaire situé dans la région. Depuis, le Larzac est le lieu de toutes les contestations.
Ce soir, d'après les informations, nous sommes plus de 350 000 réunis. Jamais un tel rassemblement n'a eu lieu. Jamais autant de personnes, d'hommes et de femmes, se sont réunis ensemble pour dire qu'ils n'acceptaient plus ce monde d'injustice, ce monde de misère dans lequel on veut nous faire vivre.
Voilà donc l'altermondialisme, Pierre-Marie Terral. Vous sentez l'évolution du temps et comment le Larzac, du même coup, dans la mémoire collective, des combattants de cette cause peut évoluer?
C'est un changement de dimension auquel on assiste. 2003, c'est une façon de célébrer pour ces militants du Larzac les 30 ans de leur premier grand rassemblement d'ampleur, sauf qu'on a changé d'époque, et que le Larzac s'affiche à ce moment-là comme l'un des bastions, si ce n'est le bastion français de l'altermondialisme, qui est cette nouvelle cause, en tout cas qui est le nouveau nom donné à ces solidarités internationales contre la mondialisation, contre l'uniformisation économique, et là en particulier contre l'OMC. Il ne faut pas oublier que cette Organisation mondiale du commerce, elle est combattue par les agriculteurs de la Confédération paysanne, dont le Larzac est un des hauts lieux.
Et dont Beauvais est un des leaders.
Est un des membres fondateurs, comme certains agriculteurs de Loire-Atlantique, puisqu'on l'a dit, Bernard Lambert, parti de Loire-Atlantique, a permis à ce mouvement de la gauche paysanne de se constituer en force organisée, une fois l'alternance de 1981 passée, avec la naissance de la Confédération paysanne en 1987.
Donc nous allons arriver à Notre-Dame-des-Landes et considérer les ressemblances et les différences. Il y a d'abord une ressemblance qui frappe, c'est la capacité de médiatisation. Dans les deux cas, on voit en particulier des militants arriver à Paris, au pied de la Tour Eiffel. Rappelez-nous ça.
La nécessité, à partir de 1972, de sortir du département et de sortir de la région à Paris. Le 14 juillet 1972, Robert Gastal, un agriculteur de la cavalerie, au cœur du projet d'extension, clame à Rodez, s'il le faut, nous monterons à Paris. À cette époque, monter à Paris, c'est difficile, surtout lorsqu'on va le faire avec des tracteurs, et c'est bien ce que vont faire les agriculteurs. Et quelques années plus tard, ils vont le faire, mais cette fois à pied.
700 km à pied.
700 km à pied, en toute une série d'étapes à travers la France, dont la chronique va être faite dans les médias, dans Libération, qui est alors un tout jeune journal, dans Le Monde, et là, un immense élan de sympathie se forme autour de ces agriculteurs, avec une dimension, j'allais dire, messianique autour d'eux. On est passé dans autre chose, et une véritable sympathie se développe dans l'opinion publique, et l'arrivée de la marche du Larzac à Paris est un véritable événement, avec une manifestation de rue rassemblant des dizaines de milliers de personnes, dont les journalistes du Canard Enchaîné, pour qui c'est la seule manifestation de rue ou l'une des seules de leur histoire, et qui ont participé à ce mouvement.
On nous dit d'ailleurs que parmi les pierres qui ont permis de bâtir la fameuse bergerie, notre cathédrale, il y en a une qui porte, de la part du Canard Enchaîné, à la fois un palmipède et une brebis. Il y a des brebis au pied de la Tour Eiffel.
Des brebis autour de la Tour Eiffel, c'est une des premières actions d'ampleur. En 1972, au prétexte d'une publicité pour Roquefort, les agriculteurs arrivent à installer quelques brebis, le temps que les photographies soient prises et diffusées dans les grands hebdomadaires français. Cela crée dès ce moment-là une image de sympathie qui va être rééditée avec, lorsque les agriculteurs et leurs familles camperont sous la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel, elle sera aussi investie avec un peu moins de succès, un peu moins de médiatisation à ce moment-là par les militants de Notre-Dame-des-Landes. Qu'on le veuille ou non, on retrouve un certain nombre d'actions. Je ne dis pas que le Larzac est à la base de tout, que le Larzac est la matrice de toutes ces luttes environnementales, mais les militants de diverses luttes environnementales en France en arrivent aux mêmes conclusions, inventant ou réinventant des formes de mobilisation qui sont un peu similaires, qu'il s'agisse d'ensemencer les terres achetées par leur adversaire, qu'il s'agisse d'élargir leur mouvement en impliquant des militants qui vont venir occuper sur le terrain, comme ça a été le cas à Notre-Dame-des-Landes, où une ferme vendue à Vinci, l'entrepreneur de travaux publics, a été occupée afin qu'elle ne soit pas détruite pour céder la place aux futures infrastructures aéroportuaires dont on sait depuis qu'elles ont été annulées.
Est-ce que le Larzac a été évoqué beaucoup à Notre-Dame-des-Landes? C'est un point qui mérite l'attention. Vu du Larzac, d'ailleurs, il y a l'idée que la lutte contre l'aéroport est un peu l'enfant des combats des années 1970. Comme le dit un paysan du Larzac, qui est interrogé à ce propos, dans une émission qui s'appelle « L'esprit du Larzac », précisément, sur France Inter, le 23 novembre 2012. C'est un reportage de Frédéric Bourgade. Et on retrouve cette question de la violence et de la non-violence.
L'esprit du Larzac, c'est d'avoir peur de personne, ni des politiques, ni des juges, ni des CRS. C'est résister pour exister.
Robert Calazel.
on a inventé au fur et à mesure. Notre-Dame-des-Landes, il va falloir qu'il fasse pareil. Par contre, ce qui me surprend un peu à Notre-Dame-des-Landes, c'est que j'ai vu des gens qui étaient cagoulés ou qui étaient masqués, alors que l'Arzac, on ne s'est jamais caché devant n'importe qui en face, que ce soit les politiques, les juges, les militaires. Tandis que là-bas, ça me gêne un peu quand même.
La solidarité active, la mobilisation permanente, c'est ça l'esprit du Larzac. Le peuple contre les élites, finalement, explique Pierre Marcillac.
Quand je vois qu'on parle d'un aéroport aussi énorme, dans la prospective de 2050, en 2050, on ne sait pas du tout où on sera, économiquement. Il faut quand même qu'ils mettent dans leur tête des choses. Peut-être bien que les 40 000 ou 50 000 personnes qui avaient Notre-Dame-des-Landes samedi ont raison.
Ils ont raison, ils n'ont pas raison. Est-ce que le Larzac, finalement, fonctionne comme un modèle ou comme un repoussoir à Notre-Dame-des-Landes?
Il y a deux dimensions. La dimension de protestation qui a duré 10 ans sur le Larzac, mais la deuxième dimension qui intéresse actuellement, c'est celle de laboratoire foncier qu'a su acquérir le Larzac. À l'époque où la Société civile des terres du Larzac est créée sur le Larzac, en 1983-1984, pour gérer collectivement ces terres appartenant à l'État dans le but de créer ce camp militaire, en tout cas de l'agrandir, il n'y a pas de précédent à ce moment-là, et ça semble tout à fait improbable, même si l'idée de créer des offices fonciers faisait partie des 110 propositions de François Mitterrand. Le Larzac est la première réalisation de ce type, et aujourd'hui, une référence existe. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on puisse plaquer tout ce qui s'est réalisé alors, et qu'on puisse faire rentrer Notre-Dame-des-Landes dans ce qui s'est passé au Larzac. Le moule serait trop réducteur. Je voudrais citer une phrase d'Hervé Kempf dans son livre consacré à Notre-Dame-des-Landes qui disait « On s'est installé sur le Larzac pour vivre et travailler au pays. À Notre-Dame-des-Landes, on veut vivre et changer le monde. » Il y a cette dimension internationale, cette articulation entre local et global qui a été un des grands slogans de l'ère altermondialiste qui est très présente auprès de ces jeunes gens qui se sont installés, avec des différences. Et parmi ces différences, il y a le fait que ce prénom unisexe de Camille, ces visages...
Unisexe, c'est-à-dire que tout le monde s'appelle Camille pour éviter que sorte, comme nous le disions, une tête parmi les autres.
Ces visages dissimulés qui sont à la fois pour qu'une tête, comme vous le dites, n'incarne pas le mouvement, mais également parce qu'on ne veut pas toujours... donner son identité, c'est quelque chose qui n'existait pas sur le Larzac. Les temps ont changé, les générations aussi. La génération ZAD, si on peut l'appeler ainsi, est certainement beaucoup plus radicale que celle de ses prédécesseurs du Larzac.
Il faut rappeler que ZAD, ça veut dire zone d'aménagement différé. Les ZADistes, ça ne pouvait pas exister, évidemment, dans les années 70. L'interlocuteur que nous avons entendu, l'agriculteur du Larzac, insiste sur le fait que eux pratiquaient, on pratiquait vite la non-violence, qui ne se dissimulait pas non plus, c'est important me semble-t-il.
Cette non-violence du Larzac, il a fallu l'appliquer sur la durée, et il a fallu résister à la tentation de la violence. Ce qui s'est passé aussi, c'est que le rapport de force numérique était tout à fait différent. Les 103 paysans et leurs familles étaient bien implantés sur le terrain. Il y a eu quelques dizaines d'installés sur le plateau du Larzac. Aujourd'hui, à Notre-Dame-des-Landes, on a quelques familles d'agriculteurs qui sont restées et on a environ 200 zadistes. Donc, ce rapport de force est tout à fait différent. Et la dimension violente est débattue à Notre-Dame-des-Landes. À l'époque du Larzac, n'oublions pas qu'on était dans des années où la violence révolutionnaire a été célébrée avec tout son cortège de romantisme. C'était d'ailleurs assez intéressant de voir Jean-Paul Sartre, lui-même adepte de cette violence, d'écrire le mouvement du Larzac avec la sympathie nécessaire au soutien de cette cause comme la plus belle lutte du XXe siècle. De là à dire que Jean-Paul Sartre accomplit son tournant non-violent sur le Larzac, je n'irai pas jusque-là, mais il prend en considération que cette non-violence peut aussi être l'arme des faibles.
L'aspect de le nombre des paysans sur place est un élément important, puisqu'on doit rappeler qu'il y avait 14 000 hectares sur le Larzac et seulement 1300 pour Notre-Dame-des-Landes. Et il y a peut-être aussi des différences de caractère sociologique. La sociologie militante à Notre-Dame-des-Landes est plus divisée et par conséquent elle rend plus difficile l'affirmation d'une légitimité. Sans compter que, à l'époque, comme l'a observé Jean Viard, le sociologue, avec pertinence, les babacools survivaient par des méthodes diverses mais ils n'avaient pas un réel projet de développement et d'entreprise. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on retrouve dans ce type de mouvement à Notre-Dame-des-Landes sont pour partie des jeunes qui ont de grandes difficultés à entrer dans la vie active, des jeunes exclus qui se sentent exclus. L'ARZAC intervient lorsqu'il n'y a pratiquement pas de chômage en France.
Il y a à cette époque des filets sociaux qui permettent de militer et de revenir ensuite à sa vie précédente si on le souhaite. À Notre-Dame-des-Landes, on a une génération qui est aussi en rupture parfois volontaire, parfois beaucoup moins, avec cette société capitaliste, cette société mercantile qui est totalement rejetée, avec la volonté de créer une enclave, une micro-société. Tout cela avec beaucoup de nuances et une partie de ses militants, de ses occupants, qui développent aussi beaucoup de projets, des projets agricoles, des projets alternatifs, comme ça a pu être aussi le cas avec les différences que cela comporte à l'époque du Larzac.
Est-ce qu'on a beaucoup évoqué le Larzac parmi les mouvements de Notre-Dame-des-Landes ?
Il faut noter que lorsque Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture de François Hollande, est venu sur le Larzac en 2013, prolonger le bail emphytéotique, c'est-à-dire la location des terres de l'État aux agriculteurs du Larzac, au sein de l'Assemblée, eh bien, il y avait Julien Durand. Julien Durand, c'est l'un des paysans emblématiques de Notre-Dame-des-Landes qui, depuis des années, avec bien d'autres, voit le Larzac comme un exemple, voire un modèle, avec là encore toutes les différences d'époque, toutes les différences de périmètre. Mais là encore, le précédent du Larzac importe.
Eh bien, je pense que nous l'aurons démontré, tout en insistant sur les différences, comme il était normal, à ce micro. Pierre-Marie Terral, je renvoie à votre livre important qui s'appelle « Larzac, de la lutte paysanne à l'altermondialisme » paru chez Privat en 2011 et un ouvrage plus ramassé mais très efficace qui s'appelle « Larzac, terre de lutte, une contestation devenue référence » toujours chez Privat, 2017, avec une préface de Jacques Semelin. Jacques Semelin était sur place. Jacques Semelin qui est l'historien, comme on sait, des résistances en Europe.
Jacques Semelin a pratiqué la non-violence avant de l'étudier, de même que la désobéissance civile sur le Larzac.
Et puis, je renverrai également un livre traduit de l'anglais de Alexander Halland qui s'appelle « Le Larzac et après, l'étude d'un mouvement social innovateur ». C'est l'Harmattan qui l'a publié en 2000. Vous avez travaillé sur un sujet, Pierre-Marie Terral, où on ne peut pas encore disposer des archives publiques, mais néanmoins... Vous avez ramassé une très large information. Alors où ?
Certaines archives publiques nous sont ouvertes. Je me suis beaucoup appuyé sur les témoignages de militants, mais aussi de militaires. Je suis allé voir une centaine de personnes durant plus de 10 ans et recouper tous ces témoignages avec les sources écrites, issues de la presse, issues des archives publiques lorsqu'elles étaient ouvertes. Ça a été, là aussi, une aventure assez passionnante et une aventure qui aura peut-être de nouveaux épisodes au fur et à mesure que des dossiers un peu plus sensibles pourront être consultables.
Vous pourrez, mes chers auditeurs, vous le savez, trouver une bibliographie plus complète que celle que je viens d'évoquer sur notre site avec les références, des documents sonores que nous avons utilisés et vous pourrez écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, mais nous sommes entourés de gens qui nous disent que le sucre est très périlleux, qu'il fait des obèses, qu'il est très dangereux pour la santé des uns et des autres. Nous allons voir ça dans la longue durée avec Florent Quellier. Le sucre, virgule, doux et mortel, point de suspension. C'était Concordance des temps, une émission préparée avec le précieux soutien de Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée, comme chaque samedi, par Anne Kobilac, avec à la prise de son Bruno Gagnère-Fontani, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain, et avec, pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Sandra Escamez. À tous, je suis redevable. Dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent, pour son émission Affaires étrangères.